Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je voulais absolument vous raconter un bout de la vie d'Eugène Saccomanno, journaliste sportif de légende, qui a passé 40 années à Europe 1. Je me suis donc plongé dans son autobiographie, publiée en 2005 chez Plon. Je refais le match. Et j'en ai tiré le récit qui va suivre, qui nous raconte sa construction, de son adolescence à Nîmes, dans le Gard, jusqu'à son arrivée à Europe 1 au début des années 70. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
J'ai 15 ans et toutes mes dents, et je suis élève au lycée de Nîmes. Le professeur de mathématiques, Monsieur Naudal, est un peu sourdingue. Alors, méchanceté de l'enfance, j'en profite un peu. Monsieur, monsieur, est-ce que je peux aller baiser votre femme? Bien sûr, Eugène. Mais attendez que votre camarade en revienne. Par contre, au moment des compositions, attention. Là, il prend la peine de lire sur nos lèvres. Il vaut mieux être ventriloque ou masquer sa bouche pour échanger avec son voisin les solutions aux problèmes. Parce que si on se fait surprendre, il faut déchirer sa copie et quitter la classe avec un zéro pointé. Ainsi va ma jeune vie quand un jour de l'année 1951 apparaissent sur les murs de Nîmes des affichettes qui annoncent un concours organisé par le journal L'Équipe Junior. Il s'agit de désigner le meilleur radio-reporter sportif junior de France. Le concours, dit l'affichette, sera organisé dans une trentaine de villes, dont Nîmes. Allez, Sacco, te dégonfle pas, hein. Vas-y, hein. Vas-y, tu vas gagner, et on ira t'encourager. Il faut dire que c'est un peu ma spécialité. Hein. Ça fait des années que je fais le mariole dans la cour du lycée, que j'imite Briquet qui commente les matchs de Radio Luxembourg, et Delay pour Radio Monte Carlo. Et donc je m'inscris à ce concours de jeunes brailleurs. Ça se passe un soir, à l'Olympia, un cinéma populaire de la rue Porte de France, à deux pas du lycée. La soirée est animée par un certain Roland Dordain, qui deviendra 30 ans plus tard le patron de l'ORTF. Il s'agit entre autres de faire le commentaire d'un match de football imaginaire. J'ai choisi Nîmes-Le Havre. Parce que je connais par cœur l'équipe nîmoise et que dans l'équipe du Havre, il y a le seul joueur du championnat qui porte des lunettes, Strikan. En soulignant cette originalité, je gagnerai peut-être des points. Et donc je me lance. Et à la fin, j'ai gagné l'éliminatoire de Nîmes. Clic-clac photo dans le journal, et puis après plus rien, on ne me tient pas au courant de la suite. Et un mercredi soir, je suis en train d'écouter Radio Monte Carlo, comme toujours, et là j'entends la voix de Roland Dordain.
Voici donc les résultats du concours du meilleur radio-reporter sportif junior de France. Le jeune homme qui l'emporte a découvert une affichette placardée près de son lycée à quelques mètres des arènes romaines de Sabonneville.
À partir de là, je peux vous dire que ma poitrine est un tambour.
C'est donc un Nîmois qui s'appelle Eugène Saccomanno, hein, qui gagne notre épreuve et se rendra aux Jeux Olympiques d'Helsinki.
À partir de ce moment-là, je me dis que j'arriverai à faire quelque chose dans ma vie. J'ai l'air d'intéresser les autres. Mais comment passe-t-on de l'état de feignant patenté que je suis à celui de stacanoviste? Eh bien, je n'en sais rien, mais c'est ce qui m'est arrivé. En attendant, j'ai gagné d'aller assister aux Jeux Olympiques d'Helsinki. Et donc, début juillet 1952, je prends le train de nuit à la gare de Nîmes pour Paris. Mais pas la fameuse ligne Paris-Lyon qui vient d'être électrifiée, hein, trop chère. Je prends ce qu'on appelait à l'époque la ligne de la montagne, une locomotive à vapeur qui perfore le massif central. Et me voilà qui débarque à la gare de Lyon avec ma petite valise, alors que Paris se réveille dans la grisaille. Le métro me conduit rue du Faubourg-Montmartre, siège du journal L'Équipe. où j'intègre une petite troupe d'une trentaine de supporters qui partent pour les Jeux Olympiques. On prend d'abord un train, l'Étoile du Nord, jusqu'à Stockholm, et ensuite un bateau, un ferry boat, entre Stockholm et Helsinki. Et là, il faut que je vous raconte, on a des billets de troisième classe. Et donc on dort allongé par terre dans les coursives, le long des cabines de ceux qui ont payé plus cher. Et je m'aperçois que, en bas de chaque porte, presque au ras du sol, il y a trois petits trous d'aération. Et c'est là que je découvre que je suis un mateur. Car par les petits trous, je vois quatre ou cinq créatures australiennes superbes, entièrement à poil. Ah, c'est beau, les voyages. Mais le meilleur reste à venir. Une femme de notre groupe, dont j'ai remarqué la veille entre le train et le bateau qu'elle me draguait, vient se coller derrière mon dos. Ses seins plaqués contre moi. Et je sens sa main qui passe sous la couverture et qui trouve un passage. Et moi qui continue de mater les Australiennes. Je n'ai jamais été aussi excité de ma vie. Je suis un mateur. À Helsinki, je suis très privilégié puisque je peux choisir mon programme. Ma plus forte émotion, c'est le titanesque 5000 mètres, le 5000 du siècle. Qu'est-ce que j'aurais aimé le commenter ? Satopek qui grimace dans la cendrée, Mimoun qui ne le lâche pas d'une semelle. Et à la fin, Émile Satopek qui l'emporte. Helsinki, c'était les jeux du sport et des sportifs. Pas d'argent, pas de sponsor, pas de magouille, pas de dope. À part ça, je joue au foot et je me débrouille. Avec les cadets du Nîmes Olympique, on vient de remporter le titre de champion du Gard devant Alès, l'éternel rival. Et puis une fois par an, on a la chance de voir venir jouer chez nous le Grand Reims ou l'OM de Ben Barek. Mais c'est tout, hein. Le reste, c'est de la radio et à la radio, on ne voit rien. On devine. Il faut attendre les images fugaces des actualités le samedi soir au cinéma pour découvrir les exploits de Vignal ou les dribbles de l'Allemand Fritz Walter. En vérité, on est sevré de foot, à peu près autant qu'on en est gavé aujourd'hui. Mais ma carrière de footballeur ne dure pas. Les entraîneurs n'aiment pas les glandeurs de mon espèce. J'aime le jeu, hein, mais beaucoup moins les efforts qu'on doit lui consentir. Trois entraînements par semaine, les échauffements avant les matchs. Moi, le samedi soir, je préfère courir les balles. Et donc, petit à petit, je fais partie des joueurs qui ne sont pas complètement titulaires. Promis à un club amateur de région comme Beaucaire ou Saint-Gilles. Ma carrière de footballeur s'éteint à petit feu. À part ça, il n'y a pas que le football qui a envahi ma jeunesse. Il y a aussi les taureaux. Dans les fêtes votives, à Saint-Césaire par exemple, l'été, après la prestation des raseteurs, il y a toujours, comme disent les affiches, deux vachettes réservées à la jeunesse. Et moi, j'ai 16 ans. J'en suis, bien sûr. Avec les copains, on fait les marioles. J'appelle la vachette de plus en plus près. Parfois, elle me fonce dessus, elle me renverse, elle me piétine. J'entends les gens qui crient, qui rigolent, et moi j'ai peur. Et puis, comme une vachette est éternellement distraite, elle me quitte, et je suis sauvé. Mais aux taureaux T-A-U-R-E-A-U-X, j'ai toujours préféré les taureaux T-O-R-O-S. J'ai toujours préféré la corrida. En 1953, à Nîmes, j'assiste à ma première corrida. Là-haut, dans les amphis, aux places populaires et d'entrée, j'adore la façon que le torero Rafael Ortega a de dominer son adversaire, de le conduire à la pique, de l'en retirer, de l'user noblement à la moulette pour l'obliger à venir sur son terrain, de le cadrer et puis de le tuer. J'aime la corrida, ce ballet cruel entre la vie et la mort. La lumière aveuglante de la piste, les couleurs, la musique. Je comprends ceux qui n'aiment pas ça, mais ils ont un gros défaut. La tolérance n'est pas leur fort. Le temps de faire mon service militaire et ensuite le journalisme m'attrape au cœur et aux tripes. Pour devenir un vrai journaliste, avec une carte et un numéro qui me suivra toute ma vie, je débarque à Marseille, au Provençal, où on me dit que je vais apprendre le métier, à ce qu'on appelle le marbre. Je vous explique. L'après-midi arrive dans de grandes enveloppes rouges qu'on appelle des hors-sacs, et plus rarement par téléscripteur, la copie des correspondants dans les villages, qui sont en général des instituteurs ou des secrétaires de mairie qui améliorent comme ça leur ordinaire. Ils racontent le mariage de la fille du pharmacien, ils parlent du loto organisé par le foyer rural ou du dernier match de leur équipe de foot, en utilisant les clichés les plus éculés, les plus rebattus de la langue française. Le général hiver est de retour, la neige étend son manteau blanc, ou bien Phébus darde ses rayons chauds. Et à moi de corriger et de calibrer tout ça. Je décide du calibre de la police, de la largeur du titre, 2 ou 3 colonnes. Et ensuite je descends à l'atelier, monter mes pages. Et là je me retrouve face à l'aristocrate de l'atelier, le typographe, en bleu de chauffe et en position de force. Je dois vérifier si telle photo correspond bien à la légende, si ce n'est pas celle d'un mariage à la place d'un enterrement, s'il n'y a pas eu d'inversion entre deux titres. Le typographe est en général un fort en gueule, il arrive qu'on en vienne aux mains, mais une heure plus tard, on va boire le pastis de l'amitié. Et à l'atelier, on croise les grandes signatures du journal qui viennent relire leurs papiers. Et un jour, le rédacteur en chef des pages spectacle me dit « Dis-moi, jeune, il paraît qu'avec ton ami Seguin, vous êtes des vrais cinglés de cinéma. Je manque de bras et surtout de plumes pour les critiques des films. Viens me voir quand tu veux. » Pour moi, c'est le bonheur total, même si à côté, je devrais continuer mon travail barbant de secrétaire de rédaction. Mais je vais pouvoir aller au cinéma à l'œil et avaler des dizaines de films. Murnau, Bergman, Fellini, Baroque et Fou et Godard qui me déroutent. On se gave. Hélas, un jour, mes critiques fâchent les épiciers de la cinématographie, que sont les directeurs de salle, dont l'unique idole est Henri Verneuil, parce qu'il remplit les caisses. Et donc notre aventure n'aura duré qu'un an. Mais pour nous, c'était un siècle de cinoche. Mais j'y reviendrai. Plus tard, en 1968. À cette époque-là, je viens d'écrire mon premier livre, « Bandit à Marseille », une sorte d'anthologie du banditisme marseillais du début du siècle à nos jours. Je suis dans ma petite bicoque de Malmousque, quartier d'Andoume, que je me suis acheté à crédit. Le patron des éditions Julliard m'appelle.
Dites-moi, Sacomano, je vous annonce une bonne nouvelle. Votre bouquin a intéressé Alain Delon. Il a contacté notre agent littéraire. Il voudrait l'adapter au cinéma, avec Jacques Deray. Vous nous donnez votre accord ?
Bien sûr que je leur donne mon accord. Et Jacques Deray vient me voir à Marseille. On déjeune au New York, l'un des meilleurs restaurants de poissons. Alors que je vous explique. Le film s'appellera Borsalino. Et pour la première fois, je vais réunir Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Ils joueront Capella et Siffredi. Moi, j'espère qu'il va me proposer de travailler sur le scénario. Mais c'est non. Et à partir de là, je vais être floué, couillonné, pour ne pas dire baisé. Jacques Deray n'y est pour rien. Mais comme je suis un inconnu dans la maison du cinéma, je me fais plumer comme un pigeon. Je signe un contrat pour un avaloir de 60 000 francs, plus 0,5% des recettes dans le monde entier. Mais malgré l'énorme succès du film, je ne toucherai pas un seul centime en plus de mon avaloir. Mais bon, là, je suis allé un peu vite. Retour à mes années de journaliste. Depuis 1960, mes 24 ans, en plus du Provençal, je suis le correspondant à Marseille d'Europe numéro 1. Et pour eux, je couvre notamment l'élection municipale de 1965. Gaston Defferre, socialiste, va-t-il être réélu à la tête de Marseille. Je vous rappelle qu'il est par ailleurs mon patron. Il est le propriétaire du Provençal. Au passage, qu'est-ce que cet homme ne ressemble pas à Marseille? il ne boit pas de pastis, il ne joue pas à la pétanque, il ne fait pas la sieste. Bref, le directeur général d'Europe numéro 1, Maurice Siegel, m'a demandé de faire venir Defer au micro pour qu'il participe à la soirée électorale. Mais par souci d'équilibre, Siegel m'a aussi demandé d'installer un micro dans le camp adverse, le camp de droite, au journal Le Méridional. Quand Defer apprend ça, il m'envoie un de ses directeurs. Il est furieux contre toi, hein? Si tu laisses ton matériel de l'autre côté, il te fout à la porte dès lundi matin. Et donc j'appelle Maurice Siegel.
Ah, Gaston n'a pas changé. C'est la même tête de mule que quand je l'ai connu dans la Résistance. Bon, Sacomano, écoutez-moi bien. Si lundi vous fiche dehors au Provençal, eh bien mardi vous montez à Paris, hein? Et je vous embauche à Europe numéro 1. Et en attendant, bien sûr, vous laissez votre matériel de l'autre côté, hein.
À 20h35, on sait que Gaston Defer est réélu. Et à Paris, au siège d'Europe numéro 1, on s'impatiente.
Sacco, si Siegel veut prendre Defer dans les tout premiers intervenants, où il est, bon sang?
Comme il n'arrive toujours pas, pour calmer Maurice Siegel, je propose à Paris de prendre, en attendant, Francis Linhart, le président du groupe socialiste à l'Assemblée.
Bon, c'est d'accord, installe-le au micro.
Je viens de faire une grosse bêtise. Siegel commence l'interview, et là arrive Gaston Defer, avec son manteau et son chapeau. Et quand il voit Linhart au micro, il me fusille du regard. Il nous fait lanterner encore une bonne vingtaine de minutes. Il arrive enfin, et il se plante devant moi.
« Je vais pas vous louper, Sacomano. Vous viendrez me voir après l'émission, on réglera nos comptes. Je vais vous apprendre, moi, ce que c'est que le respect de vos invités. »
Je suis jeune, je vais tout perdre. Et effectivement, juste après, Gaston Defer me fout à la porte du Provençal. Je suis estranciné, espouti, comme on dit à Marseille, chaos debout, tout s'écroule. Sauf que le lendemain, il a oublié, je n'irai pas tout de suite à Paris. Maintenant, je suis au soir, l'édition de fin de journée du Provençal. Et alors que la vague yéyé inonde le pays, je propose une chronique hebdomadaire qui s'appellera « Le temps des copains ». Et me voilà donc en plein mois d'août dans la Chevrolet Mauve de Claude François. C'est Paul Lederman, son jeune impresario, qui conduit.
Elle avale 18 litres au 100. 18 litres d'huile, bien sûr.
Claude François est engagé dans la tournée des idoles. Mais seulement en vedette américaine, hein, c'est-à-dire avant Sylvie Vartan, qui chante faux, mais qui est la star du spectacle. Qu'est-ce que je fais là? Eh bien, j'écris des articles, j'envoie des chroniques au jeune Jean-Pierre Foucault à Europe numéro 1, et Paul Lederman a réussi à me convaincre d'organiser moi aussi des galas. Évidemment, pour ne pas être jugé parti, je dois monter mes spectacles loin du journal. Par exemple, sur la plage du Gros du Roi, ou parfois je pousse jusqu'à Toulon, ou jusqu'en Avignon. Et là, je peux vous dire que je découvre ce que c'est que l'argent facile. Du cash, rien que du cash. En 3 heures, tu deviens riche. Fascinant. Et à côté de ça, je suis là du début à la fin. À 22 heures précises, quand Claude François, par exemple, rentre sur scène.
Je ne suis sans doute pas très vieux, mais je connais l'amour. Quand une fille te rend malheureux, pleure pas tous les jours.
Et après, je suis là pour la grande bouffe nocturne entre 1h et 4h du matin. Mais parfois, Claude n'y va pas. C'est un coureur, c'est un dragueur. Et donc, je l'accompagne dans ses escapades amoureuses. Le cul est son échappatoire. Il aime les femmes enfants, et avec ses admiratrices, il a le choix. Et puis, les galas finissent par manger ma vie. Je cours déjà les routes pour le journal, pour la radio, c'est trop. Et puis ça n'est pas vraiment mon métier. À l'été 1966, je décide d'arrêter. Sauf qu'il me reste encore 6 contrats à honorer, que j'ai signé l'hiver d'avant. Le 13 juillet, j'ai programmé Jean Ferrat aux arènes du Gros du Roi. Ferrat est dans son époque Potemkine. Sur le papier, je suis sûr de faire le plein. Sauf que quand j'ai signé le contrat, je ne savais pas que le même jour avait lieu au stade Wembley de Londres le premier match de l'équipe de France pour la Coupe du Monde de football 1966. Les arènes sont à moitié vides.
M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi au bruit de l'océan.
Les vacanciers sont allés voir le match à la télévision, à la terrasse des bistrots. Je suis ruiné et je paie mes dettes avec un gala de Claude François 10 jours plus tard. Il me reste un gala à organiser. Le plus grand, le point d'orgue de la saison. Jacques Brel. Le patron du Café du Commerce au Gros du Roi m'a mis en garde. Le 7 septembre ? Tu veux faire ton concert le 7 septembre ? Ne fais pas cette bêtise, Eugène. Au Gros du Roi, tous les ans, il pleut entre le 5 et le 10 septembre. On n'est pas à Saint-Trope ici, hein ? Mais t'es fou, je peux pas annuler Jacques Brel. Je te le dis, il pleuvra. Maintenant, tu fais ce que tu veux, hein ? J'appelle l'impresario de Brel, Marouani, et je me dégonfle. Et pendant 38 ans, je n'ai pas su s'il avait plu ce jour-là. Je ne l'ai appris que très récemment, grâce aux archives de la météo. Il a fait très beau temps, 21 à 23 degrés. Je demande pardon à Jacques Brel. J'arrive au bout de mes années marseillaises. Un soir, vers 6 heures, je suis à mon bureau, au premier étage du journal. Vous vous souvenez de mon livre, « Bandit de Marseille », devenu le film Borsalino. Ce soir-là, il me revient en pleine gueule quand le téléphone sonne. Allô ?
Monsieur Saccomano, vous avez écrit un livre qui nous fait beaucoup de mal. Beaucoup. Alors, avec quelques-uns de mes amis, on a décidé de vous punir. Dans quelques jours, dans quelques semaines, on verra. Vous avez été tellement dégueulasse qu'on a décidé de vous faire mariner. Mais monsieur Saccomano, ça se terminera par une balle dans la tête.
Et le type raccroche. Et donc ce soir-là, je ne rentre pas chez moi. Je vais passer la nuit à l'hôtel Saint-Georges. Je suis cerné. Et c'est à cause de ça qu'en janvier 1970, je débarque à Paris, rue François 1er, au siège d'Europe 1, où je suis accueilli entre autres par le présentateur d'Europe Midi, André Arnault. Eugène, surtout ne perds pas ton accent, hein ? Corrige-le, ne le laisse pas trop traîner, mais garde-le. C'est ta marque de fabrique, elle te sort du tout venin.
Marseille est champion d'Europe. Je vous le dis, Marseille est champion d'Europe. Marseille heureux. Marseille euphorique ce soir.
Trezeguet qui frappe.
But à mort. But à mort. But à mort de Trezeguet. Trezeguet, l'homme qui fait les miracles. Trezeguet, l'homme qui à chaque fois nous donne la victoire. Exceptionnel. Petit qui va marquer le troisième but. Et troisième but, 3-0. Nous sommes, ils sont tous ensemble. La France entière est championne du monde de football.
J'ai tiré cette histoire de l'autobiographie d'Eugène Saccomano parue chez Plomb. Je refais le match.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.